Chapitre 37. Au sortir de la forêt, lorsque les deux voyageurs s'engagèrent dans une zone beaucoup moins boisée, la pluie se transforma en neige. L'altitude n'étant pas vraiment l'allié des végétaux, les arbres poussaient de travers et portaient des branches tordues comme les membres squelettiques de très vieilles personnes. En traversant ce paysage désolé, on avait le sentiment de passer à côté de damnés, dont les silhouettes torturées puis pétrifiées jusqu'à la fin des temps trahissaient encore les indicibles tourments. À d'autres endroits, on se serait cru dans un cimetière, où les morts, après avoir réussi à fuir leur tombe, auraient été transformés en statues, leurs pieds à jamais prisonniers d'une immonde tourbe. Alors que beaucoup de gens ne se seraient pas aventurés dans ces bois sans une panoplie d'amulettes et de gris-gris, Richard ne cédait pas aux détestables fantaisies de la superstition. Pour dire la vérité, il considérait les croyances de ce genre comme le refuge ultime des ignorants décidés à le rester jusqu'à la fin de leur jour. Toutes les superstitions tendaient le même piège à l'esprit humain. Si on ne résistait pas, on finissait par se voir comme un jouet du destin. Très vite, on renonçait à tenter d'influer sur le cours des choses, comme s'il était parfaitement impossible d'agir sur le monde réel. La logique était alors remplacée par la conviction qu'il existait des forces mystérieuses auxquelles il valait mieux ne pas s'opposer. Enclin à se jeter à genoux pour implorer la clémence d'entités supérieures plus improbables les unes que les autres, les mystiques passaient leur vie à pleurnicher et à se barder de fétiches ridicules dès qu'ils croyaient frayer avec le surnaturel. Même s'il avait toujours trouvé impressionnant de traverser un bois ou une forêt pareillement dévastée, Richard savait de quoi il s'agissait et pourquoi les végétaux avaient poussé ainsi. Bien entendu, ça ne l'empêchait pas d'éprouver une certaine angoisse, mais comme l'expérience le lui avait appris, il existait deux façons de gérer cette émotion primale. Les mystiques se lestaient d'amulettes et de talismans pour tenir éloignés les démons ou les monstres qui peuplaient les endroits hantés. Ainsi, ils espéraient convaincre le destin de les épargner. Même si les gens affirmaient volontiers que les forces énigmatiques étaient au-delà de la compréhension des mortels, ils avaient tendance à croire, sans l'ombre d'une preuve, que des objets dérisoires, voire ridicules, suffisaient à les mettre à l'abri du courroux et de la sauvagerie de ces mêmes forces. À les en croire, il suffisait d'avoir la foi pour que ça marche. Comme si la ferveur mystique, telle un plâtre miraculeux, avait pu boucher instantanément tous les trous philosophiques du monde réel, et par la même occasion, toutes les fissures qui lézardaient l'édifice branlant de leurs convictions. Fervent apôtre du libre arbitre, Richard avait opté pour la seconde manière de contrôler les peurs irrationnelles. La clé était de rester en permanence vigilant, et d'être prêt à assumer seul la responsabilité de sa propre survie et de son existence. Le refus de croire au destin était la principale raison qui tenait Richard éloigné des prophéties. Si tout était écrit, l'avenir n'étant plus à vivre, mais à interpréter, à quoi bon perdre son temps à lutter? Se laisser emporter par le courant semblait tellement plus facile que de guerroyer chaque jour contre des adversaires de plus en plus puissants. Pendant toute la traversée du bois dévasté, Richard garda l'œil ouvert. Mais il n'aperçut pas de spectre vengeur ni de monstre de légende. Seuls les flocons de neige poussés par le vent erraient comme des âmes en peine dans la forêt. Après une marche forcée sous la chaleur humide de l'été, passer à des rigueurs hivernales, surtout après avoir été trempé jusqu'aux os, n'avait rien d'une expérience agréable. Vidé de ses forces par l'altitude, Richard n'envisageait pourtant pas de marquer une pause. Quand on portait des vêtements trempés, marcher à un bon pas était le meilleur moyen de résister au froid. En revanche, céder au chant des sirènes de l'épuisement et s'étendre un moment pour dormir revenait à signer son arrêt de mort. Crever de froid était probablement moins douloureux qu'agoniser avec un carreau dans la poitrine. Cela dit, on n'en était pas moins mort. De plus, Kara et Richard avaient hâte de s'éloigner de l'endroit où un piège mortel avait failli se refermer sur eux, ou du moins sur le sourcier. Les brûlures sur ses bras s'étaient transformées en énormes cloques. À l'idée de ce qui avait failli lui arriver, il frémit de la tête aux pieds. Dans le même ordre d'idées, aller voir Chota dans son fief ne l'enthousiasmait pas. Lors de son dernier passage, la voyante avait promis de le tuer s'il osait revenir. Elle ne plaisantait pas, c'était certain, et elle avait les moyens de mettre sa menace à exécution. Mais il fallait courir le risque, car Shota était sa meilleure chance de retrouver un jour Kalan. Il avait tellement envie d'entendre quelqu'un lui dire des choses utiles. Après avoir passé en revue tous les gens qu'il connaissait, Shota s'était imposé comme la meilleure candidate. Nietzsche n'avait rien pu faire pour lui, en fait, elle n'avait même pas compris son problème. Zed aurait été en mesure de l'aider, ça ne faisait pas de doute, et deux ou trois autres personnes aussi. Pourtant, tout bien considéré, Shota était la mieux placée pour le lancer sur la bonne piste. Du coup, le choix n'avait pas été difficile. Dès qu'il levait les yeux, Richard apercevait le sommet enneigé de la montagne à travers le rideau fluctuant de neige. Très bientôt, un peu devant eux, la piste qui traversait le col longerait un moment la lisière des neiges éternelles. Ici, les nuages s'accrochaient aux rochers qui, de loin, ressemblaient aux crocs acérés d'une légion de monstres. Avec la brume omniprésente, la visibilité était des plus réduites. Mais il n'y avait pas lieu de s'en plaindre, car le chemin par endroits longeait un abîme vertigineux qui aurait donné le tournis à n'importe qui. Les bourrasques lui projetant des flocons au visage, Richard releva le col de son manteau et en resserra les pans pour se protéger du froid. Maintenant qu'il progressait en terrain découvert, le sourcier et la mordecite ne devaient plus négocier simplement l'inclinaison de la pente. Un vent contraire s'était mis de la partie, ajoutant une difficulté à ce parcours du combattant. Avec les hurlements de ce vent qui jaillissait du col par bourrasques agressives, parler n'était pas facile. Fatigués à l'extrême, les deux voyageurs n'avaient aucune envie de tenir une conversation. Richard devait lutter pour respirer tout simplement, et à voir l'expression de Kara, l'altitude la rendait tout aussi malade que lui. De toute façon, Richard était ravi de ne rien dire. Après des jours passés à tout expliquer et réexpliquer, il n'était arrivé à rien avec Kara. La mordecite, quant à elle, paraissait exaspérée par les questions qu'il lui posait. Un conflit sans solution. Kara pensait que les questions de Richard étaient idiotes, inversement, il jugeait qu'elle lui répondait des absurdités. Au début, les souvenirs incohérents et pleins de trous de la mordecite avaient désorienté le sourcier. Après plusieurs jours de ce régime, il redoutait de perdre patience. En plusieurs occasions, il avait failli exploser. Par bonheur, il s'était souvenu que Kara ne faisait pas ça pour l'embêter. Si elle avait pu honnêtement lui dire ce qu'il avait envie d'entendre, elle n'aurait pas hésité une seconde. Si elle avait menti pour lui faire plaisir, le remède aurait été pire que le mal, parce que Richard, pour trouver Kalan, avait besoin de la vérité. C'était exactement pour ça qu'il allait voir Shota. Ces derniers temps, il avait recensé les nombreuses occasions où Kara, Kalan et lui étaient ensemble. La mordecite se souvenait de ces périodes et des événements qui les avaient marqués, mais elle distordait tout ce qui avait de près ou de loin un rapport avec Kalan. Dans certains cas, par exemple tout ce qui était lié au séjour de Richard dans le Temple des Vents, la mordecite avait oublié les moments où Kalan se trouvait au centre des événements. Dans d'autres occurrences, ses souvenirs divergeaient radicalement de ce qui s'était réellement produit, ou de ce que Richard tenait pour tel. De temps en temps, l'angoisse lui serrait le cœur. Et s'il se trompait? S'il avait un problème et pas les autres? Kara croyait dur comme fer que c'était lui qui se souvenait d'événements imaginaires. Mais si elle ne se permettait pas de douter de sa santé mentale, ouvertement en tout cas, chaque nouvel élément qu'il ajoutait à son dossier, croyant bien faire, la convainquait un peu plus que ses fantasmes au sujet d'une épouse le poussaient à s'éloigner de plus en plus de la réalité. Visiblement, ce qu'elle prenait pour une dérive inquiétait beaucoup la mordecite. Encouragée par sa mémoire, parfaitement claire et précise, contrairement à celle des autres, Richard ne doutait jamais bien longtemps de l'existence de Kalan. Après tout, c'était sa vie et nul ne pouvait la connaître mieux que lui. Sur certains points, les souvenirs de Kara étaient d'une limpide clarté, il fallait l'admettre. Sur d'autres, ils n'avaient ni queue ni tête, car il leur manquait des éléments clés. Lorsque Richard insistait sur ses lacunes et ses contradictions, la mordecite, comme Nietzsche, se disait qu'il était beaucoup plus atteint qu'elle le pensait. Même si cette idée lui faisait de la peine, Richard était bien obligé d'insister. Kara était la seule mordecite présente lors du mariage de son seigneur avec la mère inquisitrice. Cet événement aurait dû se graver dans sa mémoire pour toute une série de raisons. Pourtant, Kara se souvenait simplement d'une visite au peuple d'Adobe. Pour la coincer, Richard avait posé la question évidente. Qu'étions-nous allés faire là-bas? La mort de Sitte ne s'était pas démontée. Elle ignorait les motifs de ce voyage, mais son seigneur n'avait pas de compte à lui rendre, et il avait sûrement d'excellentes raisons de l'avoir fait. Le devoir de Kara était d'accompagner et de protéger le seigneur Ral. En revanche, elle n'était pas autorisée à lui chercher des poux dans les cheveux. En parlant de cheveux, Richard aurait bien arraché ceux de l'agaçante blonde ce jour-là. Bien entendu, Kara avait oublié que Callan, Richard et elle avaient voyagé dans la Slif pour gagner du temps. À l'époque, elle avait eu peur d'entrer dans le puits de l'étrange créature et de respirer ce qui semblait être du vif argent. Aujourd'hui, elle avait oublié que Callan l'avait aidée à surmonter son appréhension. La mort de Sitte se rappelait la présence de Zed chez les hommes d'Adobe. Elle n'avait pas occulté le bref passage de Shota, mais dans sa version des faits, la voyante n'était pas venue féliciter les deux jeunes gens et offrir un collier à la mariée. Plus prosaïquement, elle avait remercié Richard d'avoir enrayé la peste en osant s'aventurer dans le temple des vents. Refusant de baisser les bras, le sorcier avait évoqué le sorcier Marlin, un tueur que lui avait envoyé Jagang. Callan et Kara avaient été étroitement associés dans cette affaire, mais la mort de Sitte avait occulté tout ce qui concernait la mère inquisitrice. Richard avait alors adopté un autre angle d'approche. Sans l'aide de Callan, avait-il demandé, comment aurait-il pu guérir de la peste? Pour commencer, il n'aurait probablement jamais réussi à entrer dans le temple des vents. La réponse de Kara lui avait coupé le souffle. Seigneur Ral, vous êtes un sorcier, donc ces choses-là vous regardent. Désolé, mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi vous faites régulièrement des miracles avec votre don. J'ignore tout de la magie, mais je suis capable de voir quand elle fonctionne. Vous avez remis les choses dans l'ordre, ça c'est une certitude. Comment? Je n'en sais rien. Quand vous m'avez guéri à l'auberge, ai-je compris ce que vous aviez fait? Pas le moins du monde. Vous êtes la magie qui affronte la magie, comme vous l'impose votre devoir. Je ne me souviens pas que cette femme ait joué un rôle dans tout ça. J'aimerais vous faire plaisir. « Mais ne comptez pas sur moi pour vous mentir. » Chaque fois que Callan avait joué un rôle important, la mémoire de Kara distordait ou occultait les faits. Immanquablement, la mort de Sitte présentait une version alternative de la réalité ou prétendait que son seigneur évoquait des événements imaginaires. Richard détectait des incohérences à l'appel dans les récits de sa protectrice. Mais son ami refusait de le croire, lui opposant des arguments d'une tranquille absurdité. Les nerfs du sorcier menaçaient de craquer. N'ayant aucune envie de finir par tordre le cou de Kara, il n'essayait plus de la ramener à la réalité. Si tout ce qui concernait Callan s'était effacé de sa mémoire, eh bien tant pis. Avoir failli mourir n'arrangeait sans doute rien, même si le début de la négation de la réalité était antérieur à l'attaque de l'auberge. Cela posé, il devait y avoir une cause rationnelle à cette perte de mémoire, d'autant plus qu'elle ne frappait pas qu'une seule personne. Richard penchait pour un sortilège très puissant. Et s'il avait raison, rien de ce qu'il pouvait dire ne réveillerait les souvenirs de Kara. C'était terrible, mais il y avait plus grave encore. Pendant qu'il tentait de rétablir les souvenirs des autres, Richard ne cherchait pas Callan et il perdait un temps précieux. Il jeta un rapide coup d'œil derrière lui pour s'assurer que Kara le suivait toujours. Dans les montagnes qui entouraient la longe d'Agaden, il suffisait souvent d'un seul faux pas pour basculer dans un gouffre sans fond. Avec les plaques de verglas dissimulées par une fine couche de poudreuse, glisser n'était pas difficile, même quand on avait le pied sûr comme Richard et sa fidèle amie. Avec une si mauvaise visibilité, Richard ne voulait pas risquer de perdre le contact avec la mort de Sitte. S'ils étaient séparés, les hurlements du vent couvriraient leurs appels et la neige effacerait leurs empreintes en moins de 10 minutes. Dès qu'il eut constaté que Kara était juste derrière lui, le sorcier recommença à regarder devant lui, même s'il ne voyait pas grand-chose à travers le rideau de flocons. Revenant à sa méditation, il dut reconnaître qu'il avait mis le doigt sur quelque chose. Chaque fois qu'il pensait à un événement dont la mort de Sitte, Nietzsche ou d'autres amis à lui auraient dû se souvenir, il tombait dans le vieux piège consistant à se préoccuper du problème, au lieu de se concentrer sur la solution. Depuis qu'il était enfant, Zed lui répétait de se soucier de son objectif, trouver la solution, pas de ce qui lui causait des tracas. À partir de maintenant, se jura Richard, les conséquences secondaires de la disparition de Callan ne l'intéresseraient plus. Kara, Nietzsche et Victor, par exemple, avaient une imagination inépuisable quand il s'agissait de boucher les trous de leur raisonnement. Tous les trois n'avaient aucun souvenir de ce qui s'était vraiment produit. En passant son temps à rectifier leurs souvenirs biaisés, le sorcier s'écartait de plus en plus de la bonne démarche, retrouver sa femme à n'importe quel prix, et il mettait en danger la vie de Callan. Il devait se ressaisir et suivre enfin le bon vieux conseil de son grand-père. « Pense à la solution, pas au problème. » Mais renoncer à convaincre ses amis que Callan existait n'était pas facile. En un sens, ça revenait à l'oublier alors même qu'il était en train de la chercher. Dans sa relation avec son épouse, la mémoire jouait un rôle central. Aller voir Shota servirait surtout à étayer ses souvenirs, à leur donner de la substance. Sa première rencontre avec la voyante avait eu lieu en présence de Callan. L'idée était de lui demander de l'aide pour retrouver la dernière boîte d'Orden, toujours manquante alors que Darkenral avait mis les artefacts dans le jeu. Callan était inextricablement lié à la vie de Richard. En un sens, il la connaissait avant même de la connaître, alors qu'il était encore un petit garçon. Au minimum, la notion d'inquisitrice ne lui était pas totalement étrangère. Quand il était enfant, l'homme qu'il prenait pour son père, George Cypher, lui avait parlé d'un livre secret qu'il avait volé et rapporté en Terre d'Ouest pour éviter qu'on le détruise. Tant que ce grimoire existerait, le monde serait en danger. Mais George n'avait pas le cœur d'éradiquer tant de connaissances. Il ne voyait qu'un moyen d'assurer que l'ouvrage ne tomberait jamais entre de mauvaises mains. Apprendre le texte par cœur, puis brûler le support matériel. George Cypher avait choisi son fils pour cette tâche titanesque. À l'abri dans une clairière isolée, le futur sorcier avait passé des mois à lire et relire le texte afin de le mémoriser. George n'avait jamais jeté un coup d'œil dans l'ouvrage, seul Richard en avait le droit. Après ce travail intensif, l'enfant avait entrepris de coucher sur le parchemin tout ce qu'il avait enregistré, puis il avait comparé avec le texte original. Au début, les erreurs abondaient, mais il s'était amélioré très régulièrement. Chaque fois, George brûlait les écrits de son fils. Très souvent, il s'excusait de lui avoir imposé un tel fardeau, mais Richard ne lui en voulait pas. Au contraire, il se sentait flatté que son père lui ait confié une telle responsabilité. Même s'il était trop jeune pour comprendre tout ce qu'il lisait, il saisissait d'instinct l'importance de ses textes. Quand il eut récité une centaine de fois l'ouvrage sans commettre d'erreur, Richard conclut qu'il n'oublierait jamais un seul mot. C'était essentiel car la moindre omission pouvait se révéler désastreuse. Lorsque Richard annonça à son père qu'il en avait terminé, le livre retourna dans sa cachette et y resta pendant 3 ans. Ce délai écoulé alors que Richard entrait dans l'adolescence. George et lui retournèrent dans la clairière et récupérèrent le livre. Le discours de George fut clair et net. Si Richard réussissait à restituer le texte sans commettre l'ombre d'une erreur, il brûlerait le grimoire. Richard passa l'épreuve avec succès. Avec l'aide de son père, il fit un feu aux flammes assez puissantes pour que leur chaleur les force à reculer. George tendit à son fils le précieux ouvrage et lui dit de le jeter dans le feu s'il se sentait sûr de lui. Le grimoire des ombres recensées posé au creux de son bras, Richard passa l'index sur l'épaisse couverture en cuir. Il devait être certain de ne pas décevoir son fils et au-delà l'humanité tout entière. Conscient du poids écrasant de cette responsabilité, il jeta le livre dans le feu. Dès cet instant, il sortit pour de bon de l'enfance et devint un homme. En brûlant, le grimoire dégagea de la chaleur, une curieuse sensation de froid et une brume colorée dans laquelle dansaient des fantômes. Bien que la magie fût une réalité inconnue en Terre d'Ouest, le futur sorcier avait ce jour-là eu le sentiment d'avoir accès à un monde mystérieux qui lui deviendrait un jour très familier. N'étant déjà pas convaincu par la notion de destin, il avait très vite oublié cette intuition et repris le cours de sa vie comme si de rien n'était. Mais dès sa première lecture du grimoire, alors qu'il était encore enfant, Richard avait en un sens rencontré Callan. La véracité des phrases du grimoire des ombres recensées, quand elles sont prononcées par une autre personne que le détenteur des boîtes d'Orden et non lues par celui-ci, exige le recours à une inquisitrice. Dès le premier paragraphe, on faisait allusion à une inquisitrice, et Callan était la dernière survivante de cet ordre mystérieux. Des années plus tard, le jour de sa véritable rencontre avec Callan, Richard enquêtait sur l'assassinat de son père. Darkenral avait mis dans le jeu les boîtes d'Orden. Afin de les ouvrir, il avait besoin des informations contenues dans le grimoire des ombres recensées. À l'époque, le maître de Dara ignorait que ces données n'existaient plus que dans la mémoire de Richard, et il ne savait pas non plus, bien sûr, qu'il aurait besoin d'une inquisitrice pour s'assurer de l'authenticité des propos de son fils. En un sens, Richard et Callan avaient été unis par le grimoire et les événements qui s'y rapportaient. Dès l'instant où le jeune homme avait lu le mot « inquisitrice » sur la première page, il était devenu le champion de sa future épouse. Lors de leur véritable rencontre dans la forêt, il avait eu l'impression de la connaître depuis toujours. Et au fond, ce n'était pas faux puisqu'elle était présente dans ses pensées depuis sa plus tendre enfance. Dès qu'il avait vu Callan, sans même savoir qu'elle était la dernière inquisitrice vivante, la vie de Richard avait changé. En un clin d'œil, il était devenu, eh bien, entier, comme s'il lui avait toujours manqué quelque chose jusque-là. Le choix d'aider cet inconnu n'avait rien à voir avec le destin ou les prophéties. C'était la libre décision d'un homme libre. Depuis, Callan appartenait tellement à sa vie qu'il n'imaginait pas un instant de continuer sans elle. Voilà pourquoi il devait la retrouver. L'heure de s'occuper de la solution était venue et il devait cesser de penser au problème. Une bourrasque plus glaciale que les autres arracha soudain Richard à sa réflexion. « Par là !» dit-il. Kara s'arrêta juste derrière lui et se dressa sur la pointe des pieds pour sonder la piste qui serpentait sur le flanc de la montagne longeant les neiges éternelles. Par endroits, la neige du jour recouvrait cet étroit chemin. Richard avait hâte de passer le col et de commencer la descente, mais les conditions climatiques ne s'amélioraient pas, et il ne fallait pas s'attendre à un miracle. Avec une telle couche de neige, la progression serait lente et difficile. « Nous sommes presque en haut du col, » annonça-t-il néanmoins à Kara. « Dès que nous l'aurons franchi, le chemin descendra et il fera plus chaud. »
« Bref, nous nous retrouverons sous une pluie glaciale avant même d'avoir séché. J'ai bien saisi le message. »
Richard comprit parfaitement la mauvaise humeur de la mort de Sith. Hélas, il ne pouvait pas lui promettre que les choses s'arrangeraient bientôt.
« J'ai peur que oui, » avoua-t-il.
Soudain, une petite silhouette noire jaillit du rideau de flocons. Au moment où il voyait le danger, trop tard pour réagir, la créature percuta la jambe droite de Richard, le faisant basculer à la renverse.